7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on s'intéresse aux enfants d'agriculteurs en Afrique. Rester ou fuir la terre. 80% de la population active sur le continent africain travaille dans le domaine agricole, le plus souvent sur des exploitations familiales. Et chaque année, près de 30 millions de jeunes entrent sur le marché du travail en Afrique et l'agriculture est présentée comme la solution pour l'emploi des jeunes. Sauf que les jeunes sont davantage attirés par les emplois urbains. Alors comment rendre l'agriculture attractive pour vivre décemment surtout, plus diversifiée, plus mécanisée, plus connectée, avec plus d'accès aux fonciers, aux terres? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Les enfants d'agriculteurs, en tout cas, vous avez la parole. Dites-nous comment vous envisagez votre avenir par rapport à la terre. Appelez-nous pour témoigner dès maintenant. Notre numéro, c'est aussi le WhatsApp. 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez nous laisser des messages, mais surtout dialoguer avec nous en direct avec nos invités. Jean-Michel Sourisseau, chercheur au CIRAD. Bonjour.
Bonjour.
Le CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Et vous avez publié Agriculture familiale et monde à venir chez Quae. Hubert Cochet est également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'agriculture comparée à AgroParisTech. On sera également en ligne avec Mamadou Séné, qui est expert migration pour la région Afrique de l'Ouest à la FAO, c'est l'agence des Nations Unies qui s'occupe de l'agriculture et de l'alimentation. On sera également en ligne avec le ministre de l'Agriculture au Gabon, Biendi Maganga Moussavou. C'est un pays qui achète l'essentiel de ses denrées alimentaires à l'étranger, alors que les terres y sont fertiles et évidemment on le questionnera. Je vous rappelle notre numéro 33 1 84 22 71 71. Allez, appelez-nous dès maintenant. Maintenant, quelques messages postés sur les réseaux sociaux, vous pouvez évidemment commenter. Marcus est à Port-au-Prince, en Haïti. Il nous dit « L'une des raisons qui pousse les enfants d'agriculteurs d'Afrique ou d'Haïti, nous dit-il, à fuir la terre, c'est de trouver une meilleure qualité de vie. Ils constatent que la terre ne peut plus rien leur apporter sur le plan économique à cause du déboisement. » Je rappelle que Haïti a une grosse partie de son territoire déboisé, notamment pour du charbon de bois. Et dans ces pays, l'État n'investit pas et ne les encourage pas à devenir de bons entrepreneurs. Vincent à Lubumbashi en République démocratique du Congo. On vit du travail de ma maman dans les champs, mais elle nous conseille de partir. L'agriculteur a plus d'importance dans des pays comme la Zambie. Ce qui fait mal aux agriculteurs congolais, c'est le prix qui est fixé par celui qui achète et ne fixe et ne vise que son intérêt. La Zambie, un meilleur territoire pour être agriculteur. Qui veut répondre là-dessus? Qui veut commenter par rapport à ce message d'un...
Oui,
auditeur.
Éventuellement. Alors, je ne suis pas sûr que les agriculteurs zambiens soient dans de meilleures conditions que les agriculteurs congolais. Ce qui différencie peut-être leur situation, c'est un meilleur accès au marché et donc la possibilité plus facile de vendre des denrées. Mais pour autant, la plupart d'entre eux cultivent avec des outils manuels, très peu de moyens de production et sont aussi soumis à des prix de leurs produits extrêmement faibles.
Thomas nous envoie ce message. Il nous dit « C'est difficile d'être un enfant d'agriculteur au Cameroun. Tout nous pousse à fuir. Mon père avait une cacaoyère de plus de 3 hectares. Après des séances de défrichage, de pulvérisation de fongicides qui coûtent les yeux de la tête, arrive la période de la récolte. L'acheteur qu'on appelle ici le coxeur vient te dire à combien le kilo de cacao est acheté. Rien à voir avec le tarif mondial. Seul son bénéfice le préoccupe. Quelques années plus tard, la situation n'a guère changé. Moi, j'ai quitté l'exploitation pour aller en ville. » Est-ce que l'histoire de Thomas est une histoire banale?
Banale, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, là, on est dans l'extrême de ce qui fait effectivement fuir les jeunes de l'agriculture. Un marché assez mal organisé et puis des choix aussi de filières et technologies qui ne sont pas forcément non plus les meilleurs pour donner envie aux gens de rester. Ouais, c'est tout le débat sur les modèles agricoles qui sont derrière.
Quand on a 3 hectares, il vaut mieux faire autre chose que du cacao, sous-entendu ou...
Ça dépend où on est, ça dépend de quelle qualité de cacao on fournit, ça dépend dans quel type de filière on peut s'insérer. Les marges de manœuvre sont quand même assez importantes de ce côté-là.
Faire les bons choix, hein, vous avez dit une phrase importante.
Ce qui me frappe dans ces trois témoignages, c'est quand même leur point commun, c'est-à-dire que l'agriculture ne nourrit plus son homme. Donc c'est bien le manque de perspective d'amélioration du revenu et donc du niveau de vie, de la qualité de vie qui pousse ces jeunes à fuir la campagne. Et c'est parfois même leurs parents qui leur disent surtout ne restez pas, partez. Donc je pense que la raison numéro un à ce désir de partir, c'est évidemment des revenus trop bas. Encore faut-il s'interroger sur, évidemment, les causes qui expliquent que ces revenus soient si faibles.
Alors, on va en discuter justement avec un auditeur. Je vous rappelle notre numéro WhatsApp et téléphone, 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Nous sommes en ligne avec un voisin qui nous appelle d'Abu Dhabi. Bonjour Aminou.
Allô, bonjour.
Oui, vous êtes dans le golfe persique, dans le monde arabe, et vous êtes camerounais, Aminou. Vous avez 29 ans, vous travaillez dans la maintenance à Abu Dhabi, mais vous étiez enfant d'agriculteur au Cameroun.
Bien sûr, enfant d'agriculture, j'ai pratiqué l'agriculture pendant 7 ans avec mes parents dans la région d'Okola, au Cameroun. Mmh. C'était une agriculture de subsistance. Bien qu'au Cameroun, il n'y a pas les denrées, il n'y en a pas les intrants, parce que c'est ça le problème. Et on la pratique, elle est encore archaïque, c'est très archaïque au Cameroun. Mmh. Donc, je vendais des maraîchers, tomates, cacao,
oui.
Une superficie de 1 hectare et demi.
Oui.
Voilà, c'est avec ça que nos parents nous ont élevés et envoyés à l'école.
Oui.
Donc, j'ai eu un cousin qui me parlait beaucoup plus du golfe persique.
Oui.
Et c'est comme ça que je me suis envolé pour le golfe persique. Et c'était pas facile parce que les parents ne voulaient pas.
Ah oui, alors les parents chez vous ne voulaient pas que vous partiez. Parce que vous avez travaillé la terre pendant 7 ans, ils voulaient que vous restiez pour reprendre les terres.
Exact, c'était un peu ça. Mais il fallait que je parte parce qu'il n'y avait pas de revenus. Il n'y avait pas de revenus. Arrivé à Abu Dhabi, je croyais que je devais trouver un monde agricole un peu élevé, mais il n'y en avait pas. Il fallait donc trouver un boulot dans la maintenance et c'est comme ça que je suis là-bas aujourd'hui depuis 3 ans. Donc j'espère rentrer au Cameroun, reprendre les terres de mes parents et me relancer dans l'agriculture et l'élevage. Mais déjà en Afrique, que ce soit au Gabon ou au Cameroun, c'est pas facile. Pas facile l'agriculture.
Mais alors vous dites que vous souhaitez rentrer pour reprendre la parcelle, mais alors qu'est-ce qui fera que cette fois-ci ça marchera? Vous avez évalué les conditions nécessaires au succès pour rentrer, Aminou?
Bien sûr, un moyen financier déjà, avec un peu de moyens financiers que j'ai pu amasser à Abu Dhabi, je pourrais vraiment...
Pour investir dans quoi exactement?
Pour investir uniquement dans la cacaoyère. Dans la cacaoyère et l'élevage et le maïs.
D'accord. Sur un hectare, vous pouvez faire tout ça? Un hectare et demi?
Bon, 2 hectares. Avec 2 hectares, je m'en sors.
Et vous n'envisagez pas de racheter des terres?
Bon, avec du temps. Mais je ferai d'abord avec ce que j'ai.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous continuez quand même de sentir l'appel de la terre?
Bien sûr. C'est une passion.
Merci Aminou pour ce témoignage. Qui veut réagir?
Alors oui, Aminou, ce qui est très intéressant dans votre témoignage, c'est que vous dites bien qu'avec 2 hectares, je peux m'en sortir, je peux dégager un revenu pour moi et sans doute aussi pour votre famille.
Ça semble tout petit, 2 hectares.
Tout petit, mais tout dépend évidemment des possibilités, alors des conditions naturelles évidemment, parce que j'imagine qu'au Cameroun, ces 2 hectares sont dans une région qui bénéficie de bonnes précipitations, hein, et qu'on peut peut-être faire plusieurs cycles de culture par an sur la même parcelle, que l'on peut combiner la cacao-culture, l'élevage, des cultures vivrières dans des systèmes qui sont très productifs par unité de surface, et qui permettent donc de faire travailler un ou plusieurs actifs et de nourrir une famille. C'est possible, à condition qu'un certain nombre de conditions soient réunies, bien sûr.
Notamment des moyens financiers pour des moyens matériels
Alors, je dirais qu'il y a quand même plusieurs conditions qui permettent à cette agriculture familiale, même sur des surfaces restreintes, de nourrir son homme et d'avoir un niveau de vie correct. C'est d'abord évidemment l'accès aux ressources, hein. L'accès à la terre, l'accès à l'eau lorsqu'on a besoin d'irriguer. C'est peut-être pas le cas d'Aminou, mais ça serait le cas de beaucoup de, d'agriculteurs en Afrique. C'est le cas lorsqu'on a accès aux moyens de production, donc des semences, un minimum d'outillage, peut-être des engrais. Et puis c'est le cas aussi à condition d'avoir accès au marché à des prix qui ne soient pas trop bas, évidemment, c'est un problème crucial. Et aussi accès au soutien public. Hein, parce que lorsque les soutiens publics sont accaparés, mobilisés pour d'autres modèles agricoles, eh bien, ces petites exploitations agricoles ont bien du mal, effectivement, toutes seules à s'en sortir.
On a posé pas mal de problèmes déjà, Jean-Michel Sourisseau.
Ce qui me semble intéressant aussi, c'est que le témoignage va aussi à l'encontre un peu de certaines idées reçues, en disant que la migration, c'est pour tout le temps, pour longtemps, et qu'une fois qu'on est parti, on se coupe de l'agriculture, etc. Or, quand ce que l'auditeur a dit, c'est que sur place, déjà, l'agriculture offrait pas ce qu'il voulait, et par contre, en pensant en rentrer, il pense plus à un emploi agricole qu'à un emploi urbain. Et ça, je crois aussi que c'est aussi un changement peut-être de, après une urbanisation assez rapide et peut-être des exemples aussi de... Voilà. Ce qui me frappe aussi sur le... Enfin, parce que l'emploi informel dans le secteur tertiaire en milieu urbain, et pas, on parle jamais de, par exemple, d'artisanat de subsistance ou des choses comme ça, quoi. Alors que souvent, les conditions de revenus ne sont pas aussi excellentes que ça et que...
Sous-entendu, du coup, pas meilleur que quand on est agriculteur.
Meilleur en termes de rémunération pour l'instant, d'après le... Enfin, mais en tout cas, en termes de conditions de vie et de reconnaissance sociale, etc., on voit qu'il y a quand même des marges de manœuvre et que des retours vers l'agriculture ne sont plus si illusoires et impensables que ça.
Ce n'est qu'en ville, on a accès à l'électricité, on a accès à des centres de santé, à des écoles, davantage. On va bien sûr en reparler. Merci beaucoup Aminou de nous avoir appelé d'Abu Dhabi. Bon courage pour faire vos petites économies et puis vous nous rappelez dans 2 ans, on veut savoir où vous en êtes Aminou. Hein.
D'accord.
Très bonne journée à vous. Nous sommes en ligne avec Mamadou Sène, qui est expert migration à la FAO, donc l'agence onusienne qui s'occupe de l'agriculture et de l'alimentation. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un vrai problème de jeunes qui quittent la terre, Mamadou Sène?
Bonjour à tous. Naturellement, il y a un vrai problème de jeunes qui quittent la terre. Le Sénégal, à l'instar des autres pays africains, est confronté au même problème. Aujourd'hui, on constate un départ relativement important de jeunes du milieu rural vers les centres urbains et pour certains vers l'étranger, souvent dans des conditions que vous savez. Aujourd'hui, quand on parcourt les campagnes sénégalaises, on est frappé par le fait qu'il y a très peu de jeunes. On a de plus en plus de personnes âgées au travail, d'enfants et surtout de femmes dans les champs.
À quelle région vous pensez en particulier au Sénégal?
De manière générale, à toutes les régions, mais plus spécifiquement aux grandes régions productrices du centre, notamment du bassin arachidier sénégalais, qui, comme vous le savez, était le poumon économique du pays pendant toute la période coloniale avec l'économie arachidière. Mais c'est aussi la principale zone de production de céréales du pays.
Donc l'agriculture au Sénégal manquerait de bras?
On ne peut pas aller jusque-là, parce qu'en fait, dans ces zones, disons, le niveau de productivité n'est pas important au point qu'on puisse dire aujourd'hui que la demande de main-d'œuvre, l'offre de main-d'œuvre fait défaut. Mais par contre, c'est une zone nourricière aujourd'hui pour le pays. Et les jeunes, par contre, se concentrent un peu plus vers certaines zones, notamment certaines zones côtières de production, comme la zone des Niailles, comme aussi les vallées aménagées du Nord et la vallée de l'Anambé. Mais globalement, en termes de proportion, on peut dire aujourd'hui qu'il y a une très forte réduction de la frange jeune dans la main-d'œuvre agricole au Sénégal.
Et sur le plan de l'ensemble du continent africain, quelle est la capacité de l'agriculture africaine à nourrir sa population, d'autant plus dans une période de très forte croissance démographique?
Ah oui, mais justement, c'est tout l'enjeu de la problématique aujourd'hui, migration et développement rural. Aujourd'hui, il est clair que le potentiel de développement lui-même, il est là, il est bien là, sous certaines conditions de formation des acteurs du secteur rural, d'accompagnement en termes de process techniques et méthodologiques, de financement également des activités. Je pense que l'Afrique est bien en capacité de pouvoir
En capacité, mais à l'heure actuelle.
À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Il faut dire effectivement que nous sommes dans une grande dépendance en matière de consommation vis-à-vis des produits étrangers, importés de l'étranger, notamment des céréales.
Oui. Restez en ligne avec nous, Mamadou Sène, Jean-Michel Sourisseau et Hubert Cochet, pour qu'on comprenne bien dans quelle situation sont les jeunes à l'heure actuelle qui, tous quand même, se posent la question, quand ils sont enfants d'agriculteurs, est-ce que je pars, est-ce que je reste ? Quel est le schéma classique dans lequel, en général, sont les jeunes ? On est sur des exploitations, pour la plupart, familiales. Ça veut dire quoi, très concrètement, comme type de vie, comme type de travail, comme type d'organisation du travail, Jean-Michel Sourisseau ?
La situation est assez contrastée selon les différents pays. L'Afrique est vaste, hein, l'Afrique subsaharienne aussi, et donc les situations sont différentes. Mais globalement, quand même, on a effectivement une immense majorité d'exploitations agricoles qui sont des exploitations familiales, avec une gestion plutôt patrimoniale de ces exploitations-là. C'est-à-dire que c'est plutôt l'aîné qui décide de la façon dont les travaux se font, et avec en général une dissociation entre des parcelles collectives sur lesquelles on a la céréale principale et la culture de rente, si jamais il y en a, la culture destinée au marché, et sur lesquelles les jeunes, avant de prendre leur indépendance, sont tenus de travailler pour aider l'ensemble de la famille. En revanche, ils ont en général des parcelles individuelles qu'ils peuvent gérer, sur lesquelles avoir un petit peu d'autonomie.
On fait un petit peu de maraîchage dans ces cas-là.
De maraîchage ou d'autres cultures en fonction de la qualité des terres disponibles et de l'eau disponible, etc. Ce que je veux dire, c'est que on est toujours, et c'est là un des nœuds du problème, il me semble, dans un système de droits et d'obligations qui nous nourrit quand on est jeune et on a certains droits. Voilà. Mais on a aussi des obligations la balance n'est pas si évidente que ça, quoi. Et on a eu des transformations assez fortes où les familles se sont globalement, dans les bassins de production dont on parle, sur bassin rachidier, sur les zones cotonnières, etc., on a observé quand même ces dernières décennies une diminution de la taille des exploitations agricoles et de la taille des familles qui cultivaient. On pouvait avoir des familles jusqu'à 60-100 personnes à une certaine époque. On a moins ça, surtout dans les zones de production. Et ce système de droits et d'obligations et de redistribution à partir d'un chef d'exploitation qui gère, effectivement, dans certains cas, ne tient plus, ou en tout cas ne répond plus aux besoins, et les jeunes sentent que leurs obligations deviennent supérieures à leurs droits. Ce qui peut expliquer une partie du malaise,
cette
tranche particulière des jeunes qui n'ont pas encore pris leur indépendance.
Et qui ont bien du mal, effectivement, à la prendre, qui doivent parfois patienter des années, voire des dizaines d'années, avant de pouvoir devenir autonomes vis-à-vis de la génération qui les ont précédés. Et c'est vrai que ça doit en décourager un certain nombre et créer évidemment des conflits intrafamiliaux, des conflits de génération. Alors je dirais que c'est évidemment en partie la résultante du fait que les agriculteurs âgés ne touchent évidemment pas de retraite et qui, en conséquence de quoi, ils sont obligés de travailler très très vieux jusqu'à épuisement. Et que céder les terres ou céder une partie du cheptel à leurs enfants n'est possible que lorsque ils ne peuvent plus travailler et qu'ils sont sûrs que les enfants vont pouvoir s'occuper d'eux.
Donc c'est un vrai problème. Est-ce qu'aujourd'hui, Mamadou Sène, vous êtes toujours en ligne avec nous pour la FAO à Dakar, il y a aussi dans les mentalités des jeunes de nouvelles exigences aussi en termes dans la manière de concevoir son avenir, de concevoir sa vie?
Absolument, absolument. Je pense que, comme l'ont dit les autres invités sur le plateau, la question de l'accès au foncier est une question essentielle. Aujourd'hui, tous les jeunes souhaiteraient disposer d'une parcelle propre, de pouvoir accéder à ce crédit et de pouvoir développer des spéculations plus intéressantes en termes de revenus. Mais il n'y a pas que cela. Je pense que c'est très réducteur que de penser que la seule contrainte, c'est l'accès au foncier. Il y a d'autres facteurs également, qui sont des facteurs, on va dire, émergents, puisque aujourd'hui, le clivage mondial, urbain, a s'estompé. Le jeune du milieu rural, il a les mêmes aspirations que le jeune du milieu urbain.
Ah, il veut être connecté.
Il est en demande d'autres services. Il veut accéder à l'électricité. Il veut être dans des zones désenclavées. Il a besoin de connectivité. Il a sensiblement les mêmes aspirations que le jeune du monde rural. Donc même dans certaines zones, il y a une viabilité économique évidente où l'accès au foncier ne se trouve pas. La question de la migration peut être un problème.
Merci Mamadou Sen. Je rappelle que vous êtes expert migration à la FAO. La ligne téléphonique n'est malheureusement pas formidable ce matin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Je vous rappelle notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp pour réagir, pour témoigner aussi si vous êtes enfant d'agriculteur. Est-ce que vous avez quitté la terre? Est-ce que vous avez décidé de rester? Quels sont les problèmes auxquels vous devez faire face pour vous construire? 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
On était au Sénégal, on va maintenant partir pour le Gabon. On est en ligne avec le ministre de l'Agriculture au Gabon. Bonjour monsieur Biendi Maganga Moussavou. Monsieur Moussavou, êtes-vous bien en ligne avec nous en direct sur RFI? Ah, il semblerait qu'on ait perdu le ministre de l'Agriculture au Gabon. Alors on a Jean qui nous appelle, qui est à Paris, qui est originaire du Burkina Faso. Bonjour Jean.
Oui, bonjour. Bonjour Axi.
Bonjour, vous êtes le bienvenu. Vous êtes enfant d'agriculteur?
Oui, tout à fait.
Oui. Et vous êtes parti? Vous êtes parti donc, hein?
Oui, c'est ça. Donc du coup, moi j'ai migré en France donc depuis 2007. Donc du coup, après, j'ai suivi une formation derrière ici pour compléter ce que j'avais comme savoir en agriculture que j'avais appris en Afrique. Justement pour essayer de retourner et de diversifier ma pratique agricole et de me rendre beaucoup plus, plus utile et d'avoir quelque chose de plus permanent.
Et ensuite, vous avez créé en 2016 un centre de formation en permaculture à Bobo-Dioulasso, c'est ça?
C'est ça. Donc justement, là-dessus, je lançais cette idée-là en 2013. Justement de pouvoir apporter mon expérience que j'ai apprise ici au Burkina Faso aux jeunes dans le sens de les aider à pouvoir s'installer et de pouvoir diversifier leurs pratiques agricoles et d'apporter une plus-value aussi justement à la pratique agricole et de toujours garder les gens sur place.
Comment c'est reçu ce type de pratique par rapport à ce qui se fait?
Elle est reçue un petit peu difficilement au début, parce que les gens ont besoin de voir, les gens ont besoin d'être dans l'immédiat. Et donc justement, c'est ce qui fait que les enfants d'agriculteurs, un petit peu comme moi et d'autres, on abandonne et puis on peut faire partie un peu plus loin. Donc justement, les gens ont besoin de voir. Donc cette pratique a commencé par un jardin expérimental pour montrer justement que c'est une pratique que déjà eux-mêmes ils le font. Il suffit juste d'apporter de la diversité, d'apporter un peu plus de réflexion, de la culture en hauteur aussi, pour pouvoir justement...
Ah, on a perdu Jean, bah, décidément aujourd'hui. Alors ceci dit, j'en vois quand même pas mal qui se disent là en ce moment, bon c'est pas avec la permaculture qui est un mode de culture en général biologique, avec très peu de travail du sol, pas de pesticides, etc. C'est pas avec ça qu'on va nourrir l'Afrique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la façon de concevoir l'agriculture et surtout pour les jeunes qui comprennent bien qu'il va falloir qu'ils soient davantage formés aujourd'hui s'ils veulent rester à cultiver des terres en Afrique, mais en même temps plus outillés. Comment vous voyez les choses, Jean-Michel Sourisseau et Hubert Cochet? Hubert Cochet.
Alors, l'intervention de Jean pose la question de quel type d'agriculture faut-il ou faudrait-il développer en Afrique subsaharienne pour relever, me semble-t-il, deux défis majeurs, celui de nourrir une population croissante et la nourrir de mieux en mieux, et celui de créer le maximum d'emplois. Et donc, alors, on ne va pas rentrer dans le débat permaculture ou autre, mais ce qui est intéressant, c'est de bien voir qu'un certain nombre de modes de production permettent de créer ce qu'on appelle de la valeur ajoutée par unité de surface, ou en d'autres termes, de produire beaucoup de richesses par unité de surface, en employant beaucoup de travail. Et je crois que ces deux défis sont absolument essentiels pour l'agriculture de demain, puisque on... Bon, beaucoup pensent effectivement aux tracteurs pour accroître la productivité du travail, mais si la transition agricole que l'on essaie de mettre en place en Afrique se base, comme ça a été le cas en Europe, sur le remplacement de la force de travail par la machine, on aura peut-être mais c'est pas sûr, résolu le problème de la quantité de nourriture à produire, mais on aura créé des centaines de millions de chômeurs que les autres secteurs de l'économie ne pourront pas, ne seront pas en mesure d'absorber.
Alors certains vous répondront qu'il y a ensuite la transformation des matières premières et que là on peut créer beaucoup d'emplois, certes avec peu de jeunes dans les champs si on a des tracteurs, mais qu'en revanche ensuite pour ce qui est de gérer les récoltes et de les transformer et de faire de l'agro, du business de l'alimentation, hein, finalement, là on peut créer beaucoup d'emplois. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel Sourisseau ?
Oui, quand même, je pense que c'est... Enfin, et là, on est quand même au cœur d'un sujet... L'équation est complexe aussi, parce que la situation particulière de l'Afrique subsaharienne, à l'échelle du monde, c'est le seul endroit au monde où on a, malgré l'urbanisation, où on continue à avoir une augmentation de la population rurale, du fait de la forte croissance démographique, et le nombre d'enfants par femme diminue, mais diminue fortement. Sans vouloir abreuver de chiffres quand même, quoi. C'est quand même, on attend d'ici 2050, en gros, 800 millions de nouveaux travailleurs sur le marché de l'emploi et du fait des équilibres, plus de 60% seront dans le milieu rural. Donc, et l'agriculture, dans le milieu rural, va bien devoir les absorber. Donc du coup, cette question de l'emploi peut pas être négligée comme ça et elle a à voir quand même avec la question qui nous pose de l'attractivité ou pas. Il va falloir quand même que l'agriculture crée de l'emploi sur place, voilà, pour ces gens-là. Et du coup, ce qu'on est en train d'essayer de développer dans beaucoup d'endroits en Afrique aujourd'hui, c'est de l'agro-business. Qui heureusement, enfin heureusement de mon point de vue, mais enfin tarde à se mettre en place de façon rapide. Mais c'est l'agrobusiness qui, on le sait un peu partout, dans les trajectoires de développement qu'ont connu les autres pays, fait une diminution assez forte de la population agricole. Et cette diminution de la population agricole, il faut pas la confondre. C'est ce que je veux dire, c'est que l'attractivité de l'agriculture, les modèles attractifs qu'on essaye de promouvoir aujourd'hui sont des modèles qui ne sont pas inclusifs en emploi.
Mais alors attendez, là vous dites finalement la même chose. Si on a de grandes tailles d'exploitation très mécanisées, ça ne créera pas d'emplois. Mais à l'heure actuelle, on a de petites exploitations familiales qui n'ont pas de rendement et qui ne créent pas non plus réellement d'emplois, ou en tout cas des emplois très mal rémunérés.
D'où la discussion sur le modèle. D'où la discussion sur le modèle.
Voilà. Si on regarde la production par unité de surface, ce qui est un critère essentiel, il est absolument faux que les grandes exploitations travaillant sur plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'hectares avec des moyens motorisés produisent plus par unité de surface. Ça, c'est un mythe qu'il faut absolument abattre. Il y a des cas où c'est effectivement le vrai, mais dans un très grand nombre de situations, c'est tout à fait inexact et les exploitations très petites produisent davantage de richesses par unité de surface, parce qu'elles sont plus intensives en travail. Alors ensuite, les emplois. Dans ces grandes exploitations qui sont promues en général par les pouvoirs publics et qui se mettent en place à coup d'investissements étrangers ou nationaux d'ailleurs, les emplois créés sont très souvent en nombre faible, beaucoup plus faible que ce que pourrait créer une agriculture familiale intensive en emplois sur les mêmes terres, et que ces emplois sont très souvent saisonniers et mal rémunérés. Donc, les promesses d'emploi de ces grands projets, en général, ne résistent pas à l'analyse et ne résistent pas à la comparaison des modèles agricoles.
Si vous êtes d'ailleurs salarié dans une grande entreprise d'agrobusiness, bien évidemment, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. On donne la parole à des auditeurs qui nous appellent. Charles est à Bafang, au Cameroun, à 300 km au nord de Yaoundé. Bonjour Charles.
Bonjour Emmanuel.
Alors Charles, vous avez été formé comme technicien en agriculture, si je ne me trompe pas, vous avez 27 ans. Vous avez repris les terres de votre famille en maraîchage ?
Oui.
Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ?
Bon, aujourd'hui, j'ai pu reprendre les terres de la famille et sur 22 hectares qui étaient là initialement, puisqu'il faut dire que les grands-parents ne faisaient pas dans le maraîchage, mais le café.
Oui.
Et lorsque le café a perdu de sa valeur sur le marché, on a dû remplacer les cultures. D'abord par des bananiers et tout ça,
oui.
Jusqu'à ce que je finisse ma formation pour lancer dans quelque chose de beaucoup plus rentable, comme les maraîchers.
Oui.
Mais à cause d'un problème de financement, je me retrouve sur près de 22 hectares en train d'exploiter uniquement 1 hectare.
Sur les 22 hectares, vous cultivez 1 hectare à l'heure actuelle,
C'est exact.
Donc en piment, en tomate, en poivron, ce qu'on appelle le maraîchage. Pourquoi vous ne cultivez qu'un seul hectare alors que vous avez 22 hectares à disposition?
Parce que je me trouve face à un problème qui est le cas général pour la majorité des Camerounais. Problème de financement. Vous savez, le gouvernement met en œuvre plusieurs programmes avec même l'appui des financements internationaux comme l'Union européenne. Mais ça n'arrive pas toujours jusqu'auprès des entrepreneurs comme nous autres.
Donc il s'agit bien d'un problème, Charles, d'accès aux moyens de production, d'accès au crédit, qui vous empêche d'accroître la surface cultivée.
Parce que là, concrètement, il vous manque quoi? Il vous manque du matériel, des machines, des semences? Qu'est-ce qui vous manque? Des engrais?
Il manque des semences, des engrais, surtout de quoi rémunérer la main-d'œuvre. Parce qu'avec une forte main-d'œuvre bien rémunérée, il devient très facile d'exploiter toute cette superficie et même d'augmenter à ça d'autres spéculations comme l'élevage ou alors des petites agro-industries.
Donc des crédits de campagne, c'est
ouais,
ça
c'est
qui
ça, des crédits pour démarrer en fait. Hein. Merci beaucoup Charles de nous avoir appelé. On voit bien que là, ce n'est pas un problème d'accès à la terre. D'ailleurs, le continent africain ne manque pas de terre.
Alors, il manque pas de terre, mais des surfaces immenses ne bénéficient pas de conditions favorables à l'agriculture, ça on le sait. Et puis, quand j'évoquais en début d'émission les questions d'accès à la terre, force est de constater que de nombreux agriculteurs ou fils d'agriculteurs africains voient une partie des terres de leur village attribuées par les pouvoirs publics à des investisseurs ou à d'autres acteurs. Ou alors, s'il ne s'agit pas de terre, il s'agit des ressources hydriques et qui, évidemment, amputent une partie des terres villageoises ou des terres accessibles hein, et les empêchent de développer, par exemple, une nouvelle exploitation agricole. Mais si vous voulez, on a beaucoup parlé hein, les années précédentes de ces processus d'accaparement de terres, hein, souvent opérés par des investisseurs soit étrangers, soit nationaux, pour mettre en place de très grandes exploitations de plusieurs centaines, plusieurs milliers d'hectares, parfois davantage encore. Et très souvent, ce sont les gouvernements qui attribuent des concessions d'exploitation sans tenir compte des droits coutumiers, sans tenir compte forcément des populations qui exploitent ces terres. Parce qu'en général, les terres qui intéressent les investisseurs sont évidemment des terres qui sont fertiles, qui sont dotées d'une ressource en eau, qui sont accessibles, et donc des terres qui sont déjà occupées par des familles paysannes. Et lorsqu'une partie de ce territoire est cédée à un investisseur, eh bien, les enfants de ce village ont des difficultés supplémentaires pour accéder à la terre. C'est une évidence.
Ça veut dire que les grandes exploitations et les petites exploitations familiales, c'est compliqué de les faire cohabiter, notamment parce qu'elles se disputent aussi, et pas toujours avec justice, les ressources en eau. Jean-Michel Sourisseau.
Oui, il me semble que c'est compliqué de les faire cohabiter à plusieurs niveaux. Hein, pour les questions de ressources, on parle de ressources en eau, ressources en terre. On parle aussi des maigres ressources aussi disponibles, financières disponibles pour l'agriculture, des ressources politiques, etc. Et donc du coup, le partage n'est pas facile. Quoi. Disons que la coexistence est souhaitée par beaucoup, en disant il faut faire feu de tout bois et puis ça peut fonctionner, etc. Mais dans la réalité, ce qu'on observe plus généralement, c'est quand même quand cette coexistence a du mal à se voir, on est plus quand même dans des rapports de compétition que dans des rapports de complémentarité.
Amadou nous appelle au 33 84 22 71 71. Bonjour Amadou, vous êtes à Conakry.
Oui, bonjour Emmanuel et bonjour à tous les fidèles auditeurs de la RFI.
Amadou, vous avez fait une formation en agrobusiness à Conakry. Vos grands-parents sont agriculteurs ou étaient agriculteurs?
Bon, mes grands-parents, certains d'entre eux sont agriculteurs. Bon, mais ce n'est pas leur métier en tant que tel. Ils cultivent, c'est dans la mesure où, bon, ils utilisent pour se nourrir, entre autres. Donc, ce n'est pas un métier réel pour eux. Et moi qui ai suivi une formation en agrobusiness, je voudrais vraiment m'investir dans ce domaine-là afin de développer ce secteur et en faire un secteur de croissance économique.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire dans l'idéal?
Bon, en fait, ce que je souhaite faire aujourd'hui, j'ai mené quelques démarches avec certains amis. Nous avons obtenu des portions de terre, ce qui est difficile en entrepreneuriat dans le cadre agricole. Et donc, nous avons quelques extras Mais ce qui nous manque réellement, c'est le problème de financement dont la majorité est confrontée au fait. Parce que si vous dirigez vers une banque ou bien vers une institution de crédit, donc il faudra que cette institution-là voit que vous avez un minimum d'argent pour mettre dans le projet avant qu'on vous accompagne. Parce qu'ils attendent toujours quand même, ils prennent le facteur de risque.
Ouais, bien que vous ayez des terres à disposition, Amadou, si j'ai bien compris.
Oui, oui, il y en a, bien sûr. Nous avons la portion des terres. Donc, un ami nous a trouvé plus de 65 hectares. Et moi aussi, quand je me dirigerai vers les parents, certainement que je pourrais trouver quelques hectares. Ouais. Donc, c'est un avantage que nous avons.
Ouais, vous parlez quand même de 65 hectares.
Pas de financement pour cultiver.
C'est pas rien. Merci, Amadou, de nous avoir appelé. Salif nous appelle. Il est étudiant en économie. Je ne sais pas. Ah, sa ligne a coupé. Je ne sais pas d'où nous appeler Salif, il a 25 ans. Si on pouvait me montrer son message pour que je puisse le lire, ça serait formidable sur l'écran. Voilà, je n'ai pas abandonné les terres car je repars aider mes parents, mais au-delà des revenus faibles, il y a le problème du stockage des aliments. Rien n'est vraiment organisé pour l'agriculture. Jean-Michel Sourisseau.
Je pense que là, on aborde aussi le problème de la... On parle beaucoup d'attractivité du secteur agricole, mais on pourrait parler de l'attractivité des territoires en général aussi. On l'a parlé sur les conditions de vie, sur... voilà. Pour donner un exemple, on a à Madagascar, sur les hautes terres, autour d'Antirabé, on a toute la partie est de la région qui est surchargée, qui est vraiment saturée avec des parcelles qui sont très petites, en dessous de 0,5 hectares maintenant aujourd'hui, et tout le Moyen-Ouest qui est par contre avec beaucoup de terres disponibles, mais pas du tout d'infrastructure dessus, pas de route, pas de capacité de stockage, pas de capacité de transformation. Et cette question de l'attractivité en fait aussi, elle est liée aussi à l'attractivité du territoire en général, quoi, et la capacité des États aujourd'hui à aménager aussi les territoires, pas simplement les grandes villes, les grandes capitales, mais aussi des bourgs secondaires et les petites villes rurales.
Pour vivre avec sa famille, tout simplement, pour vivre que les jeunes puissent se projeter dans la vie.
À la fois pour augmenter la qualité de la vie sur place, mais aussi pour augmenter les capacités, les potentialités économiques des formes agricoles, quelles qu'elles soient, mais en particulier des agricultures familiales.
On n'a pas encore vraiment parlé quand même de la pénibilité du travail. Or, elle est très souvent évoquée par les jeunes. Vous disiez, Hubert Cochet, mais on a, avec des petites surfaces, on a plus de rentabilité parfois qu'avec des grandes surfaces et des tracteurs, sauf que manier la daba par 40 degrés, il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent plus aujourd'hui.
Bien sûr. Alors attention, quand je ne parlais pas de rentabilité, mais de production par unité de surface. Il ne s'agit pas effectivement de diaboliser le tracteur, et je pense que des moyens comme celui-ci ou d'autres, ou même des motoculteurs, comme ça s'est tant développé en Asie du Sud-Est, peuvent diminuer la pénibilité du travail et permettre d'intervenir plus vite à certains moments cruciaux, comme par exemple effectivement pour les semis ou les sarclages. Donc la motorisation peut jouer un rôle considérable pour diminuer la pénibilité et accroître la productivité du travail.
Notamment dans le Sahel où tout d'un coup on a la chance d'avoir une pluie, il faut semer très vite, on n'a pas de tracteur, on n'a même
absolument
pas d'animal pour...
Plus ce qu'on appelle la fenêtre d'intervention favorable est réduite et plus l'accès à des moyens de production est crucial pour pouvoir faire le travail correctement au bon moment. Alors ça peut être bien sûr des tracteurs, mais ça peut être aussi des motoculteurs. Dans beaucoup de régions d'Afrique, notamment de l'Ouest, c'est la traction attelée qui permet aux familles qui ont des animaux et des outils de traction attelée de semer vite et de sarcler vite. C'est absolument crucial, on a trop tendance à l'oublier. Maintenant, si on reparle du tracteur et qu'on réfléchit sur son développement sur ce continent, beaucoup de décideurs politiques souhaiteraient développer la motorisation, il faut impérativement que cet usage du tracteur soit exclusivement consacré à ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire diminuer la pénibilité, permettre de franchir des pointes de travail dans de meilleures conditions, sans remplacer la force de travail par des machines. Parce que si on va vers une substitution capital-travail, alors en termes d'emploi, ce sera la catastrophe. Je voudrais juste dire un chiffre, pour ne pas étourdir nos auditeurs de chiffres. Dans les pays d'Europe de l'Ouest et aux États-Unis, on est passé de 40% de la population active agricole à 3 ou 4% en quelques décennies. Et ce processus s'est fait par une substitution capital-travail. On a remplacé l'énergie humaine et animale par l'énergie fossile. Imaginons un seul instant qu'à l'échelle de la planète, on fasse la même substitution capital-travail. On aurait dans quelques décennies plus d'un milliard d'actifs agricoles qui se retrouveraient sans travail, sans emploi. Aucun autre secteur de l'économie ne sera en mesure d'absorber une telle quantité d'actifs qui seraient chassés du secteur agricole. Et si on rajoute à ce chiffre absolument effrayant les nouveaux entrants sur le marché du travail, hein, et tous ceux qui aujourd'hui déjà n'ont pas beaucoup de travail, on aboutit à 2050 à quelque chose comme 3 milliards de gens sans emploi. Donc cette voie
en
substitution,
Afrique.
Non, à l'échelle
dans
mondiale,
le monde.
À l'échelle mondiale, mais c'est absolument, mais dont une très grande part en Afrique. Donc la voie de la substitution capital-travail est une voie sans issue. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur un développement du moteur, mais attention, une motorisation réfléchie, une motorisation qui accroît la production, qui accroît le revenu des gens, qui diminue la pénibilité, sans sacrifier l'emploi. C'est
Donc,
tout le défi, je pense, de l'agriculture
Donc,
de demain en Afrique.
Votre modèle à vous pour l'Afrique, pour conserver surtout les emplois sur la terre, parce qu'aucun autre secteur, comme vous le disiez, ne peut les absorber, pour vous, ça veut dire deux petites exploitations, de la petite motorisation, mais pour une forte productivité par rapport aux terres, pour nourrir aussi toute cette croissance démographique, cet accroissement
Absolument.
De la population.
Et ça va avec des exploitations agricoles diversifiées. Hein. Je crois que la spécialisation dans une seule production, qui est souvent promue comme le fer de lance de la modernité, est une impasse dans un grand nombre de situations. Hein. Il faut au contraire diversifier les exploitations agricoles de façon à ce que les emplois soient, la force de travail soit occupée toute l'année et augmenter la production par unité de surface.
Un auditeur nous appelle de Luanda, en Angola. Bonjour Edwin, soyez le bienvenu.
Bonjour Emmanuel, merci.
Edwin, vous êtes ingénieur en agroforesterie. Je ne pense pas que vous soyez angolais, en tout cas vous êtes parfaitement francophone. Quelle est votre position? Vous vous avez dit au standard, il faut revenir à un modèle d'avant les indépendances. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Exactement. Bon, j'ai étudié en RDC, c'est normal, je suis angolais.
D'accord.
Donc, je voulais dire que sur le modèle à suivre, je pense qu'on pouvait rentrer dans le modèle avant l'indépendance, ou en RDC surtout, où c'était l'État qui fournissait des intrants agricoles aux paysans. Mmh. C'est-à-dire chaque famille devrait produire au moins 2 hectares. Mmh. 1 hectare de culture de son choix, et 1 autre hectare de culture choisi par l'État. C'est-à-dire que ça empêche, ou disons, ça épargne le chômage, le chômage aux
D'accord.
Gens.
Alors, on va laisser nos invités réagir, Jean-Michel Sourisseau. Est-ce qu'il faut revenir à ce système-là ou inventer un autre système, comme le disait Hubert Cochet?
Je crois que, malheureusement ou pas, enfin, ça dépend comment on se passe, je pense que ce genre de système ne va pas pouvoir se reproduire dans la plupart des pays actuellement. Je rappelle que les États africains s'étaient engagés à mettre 10% de leur budget en 2014 sur l'agriculture. Ils en sont très très loin, et donc du coup, je pense qu'on n'est pas dans cette perspective-là. Même s'il faudrait effectivement des politiques agricoles plus offensives. Je pense que la question, c'est vraiment sur l'attractivité, en fait, de revenir un peu sur ce qui a été, parce que je crois que c'est là le cœur, en fait, quoi. Sur d'un point de vue strictement économique aujourd'hui, c'est compliqué, effectivement, de rendre l'agriculture attractive en maintenant les emplois. Les modèles attractifs que l'on développe aujourd'hui, les modèles que l'on a en tête, ce sont des modèles ultra mécanisés avec des nouvelles technologies, etc. Mais on est toujours sur le revenu, sur la question du revenu, et il me semble qu'il y aurait des choses à gagner, à la fois des marges de manœuvre avec des pratiques agroécologiques nouvelles, modernes, actuelles et qui soient attractives d'un point de vue de la technicité qui peut être développée en même temps que les revenus, et en même temps la dimension dont on n'a pas parlé beaucoup, c'est une dimension sociale aussi, de valoriser aussi l'agriculture en tant que secteur essentiel pour nourrir les populations mais aussi pour faire vivre les territoires, oui. Et dans une logique d'articulation aussi avec d'autres,
mais ça,
sur la question de l'alimentation.
Les jeunes en ont bien conscience, certains nous ont dit l'agriculture au Cameroun c'est le métier de demain, mais en même temps on n'a pas accès à des aides, on n'a pas accès à des crédits, on a des terres disponibles dans les familles, on ne peut pas les cultiver. Donc, il manque quoi? Il manque une étape, quelque chose pour avancer finalement.
Il manque sûrement des politiques agricoles offensives et suffisamment bien dotées, mais de mon point de vue aussi, il manque encore des choix forts sur la nature des modèles agricoles que l'on souhaite développer. Et on voit bien que les schémas qui ont été prônés jusqu'à présent, notamment sur des schémas d'intensification, de modernisation sur un modèle classique, finalement ont des résultats qui sont mitigé, avec un bilan qui est vraiment pas très très bon, aussi bien en termes d'emploi qu'en termes de production, et il pourrait s'interroger sur la diversité et sur avoir des modèles qui soient plus adaptés.
Bon, c'est dommage, on n'a pas le ministre Moussavou de l'Agriculture au Gabon. On aurait évidemment aimé, il était annoncé, j'aurais bien aimé qu'on l'ait au téléphone, on aurait voulu lui demander pourquoi le Gabon ne développe pas son agriculture avec des millions et des millions de terres arables et des terres qui sont particulièrement fertiles alors que le pays achète l'immense majorité de ses denrées alimentaires à l'étranger. Mais on arrive bientôt à la conclusion, même très sûrement, Hubert Cochet. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement aujourd'hui pour que les jeunes aient envie de se fixer sur la terre, puisque vous l'avez dit, ça va être un enjeu crucial, sinon on ne sait pas ce que vont devenir ces jeunes et puis comment aussi le continent va pouvoir se nourrir. Alors quels sont les modèles qu'il faut privilégier? Est-ce qu'il existe aujourd'hui des pays qui ouvrent la voie, qui donnent des pistes intéressantes de réflexion? Si vous deviez en citer un, Hubert Cochet.
Alors, difficile de répondre à votre question. Je vais peut-être faire un petit détour en revenant sur l'intervention d'Edwin qui pose très bien la question des politiques publiques. Donc, il y a bien derrière cette question celle du choix des modèles agricoles à promouvoir. Hein, et on a vu, on en a discuté tout à l'heure, qu'il est un peu illusoire de s'imaginer que l'agriculture familiale puisse cohabiter sereinement avec des modèles de type agriculture capitaliste à salariés, puisque ces modèles sont évidemment concurrents. Donc il y a un problème de politique publique, il y a un problème de choix politique, il y a un problème aussi de prix. Hein. Les premiers auditeurs nous disaient « mais à quoi ça sert, je ne peux pas vendre mon cacao à un prix décent ». Et il y serait aussi temps, je pense, en matière de politique publique, que les décideurs réfléchissent à des modalités nouvelles, il ne s'agit pas de revenir au passé, nouvelles et bien pensées, d'un minimum de protection aux frontières et d'intervention sur les prix, afin que les agriculteurs bénéficient de prix rémunérateurs et puissent vivre dignement de leur travail.
On va laisser le mot de la fin à un auditeur qui nous appelle de Saint-Louis du Sénégal, Amadou. Bonjour Amadou.
Bonjour, madame.
Vous êtes professeur à la faculté d'agronomie ou d'agriculture à Gaston Berger, à l'université Gaston Berger, c'est bien cela ?
C'est bien ça.
D'accord, il nous reste une minute, on vous laisse le mot de la fin, monsieur Amadou Ndiaye.
Merci, en fait je voudrais dire que c'est vrai que par rapport à ce que le professeur Hubert Cochet a dit, le modèle d'agriculture est très important, mais le modèle ne peut être construit qu'à travers un système d'éducation agricole bien pensé. Et aujourd'hui, le grand problème de l'agriculture africaine, c'est qu'on ne développe pas trop les compétences en matière de développement agricole chez les agriculteurs. Les agriculteurs ne sont pas formés pour devenir agriculteurs. Chacun devient agriculteur sur le tas. Et nous pensons que l'éducation agricole africaine doit être repensée et avec cela, le modèle de subvention à l'agriculture africaine.
Merci à vous Amadou Ndiaye. Effectivement, l'agriculture est un métier et d'ailleurs certains de nos auditeurs qui nous ont appelés ont reçu des formations, hein, mais ceci dit, ça ne suffit pas forcément. Merci en tout cas beaucoup, merci à vous Hubert Cochet, AgroParisTech. Vous avez publié Système agraire et changement climatique au Sud, ça aussi c'est un vaste problème et vous reviendrez nous en parler. Merci également à vous Jean-Michel Sourisseau du CIRAD, vous avez publié Agriculture familiale et Monde à venir. Ces deux ouvrages sont aux éditions Kouaé. Et merci à Mamadou Sen de la FAO qui était en ligne avec nous de Dakar. Et merci à toute l'équipe, Sigrid Azerwal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Demain, 7 milliards de voisins, avortement sélectif, crime d'honneur, épouse assassinée, mourir parce que l'on est une femme ou une fille, comment en finir avec les féminicides dans le monde? Et bien sûr, vous aurez la parole. Nous serons à la même heure, 10h10, temps universel.